Le thème de ce matin est un thème délicat et je vais l'illustrer par un sujet grave. D'abord, il faut commencer par quelque chose de très simple. De quoi parlons-nous lorsque nous utilisons le terme vérité ? Le mot vérité est un terme que l'on dit techniquement analogique. Oh, c'est pas quelque chose de très secret, ça veut dire que sa définition est très rigoureuse, mais que son application doit être souple et nuancée dans les différents domaines. Le sens rigoureux est donné par sa définition qu'on appelle la définition formelle. On appelle vérité la correspondance, c'est-à-dire l'adéquation entre un jugement, une affirmation, un jugement qui est posé, et puis ce qui est. Si par exemple je dis « cette porte-ci à ma gauche est fermée », cette phrase, ce jugement est vrai si et seulement si mon jugement correspond au fait, réellement, que cette porte soit fermée. Et vous conviendrez qu'il serait du dernier ridicule de tenir ou de prétendre que cela dépendrait de nos avis respectifs. Nous sommes 80, peut-être ou 100 dans cette salle. Ce serait ridicule de dire que sur des sujets comme cela, chacun ait sa propre vérité. Les choses deviennent passablement plus complexes lorsqu'on passe au domaine de la vérité pratique, c'est-à-dire de la morale et de l'éthique. Là, il semble beaucoup plus raisonnable de reconnaître une diversité du point de vue, par exemple, sur un débat qui va toucher la Suisse dans une année ou deux, le diagnostic préimplantatoire, par exemple sur les déchets nucléaires, par exemple sur la politique internationale. Dans ce domaine, les choses sont plus nuancées, plus délicates, et c'est de ce domaine-là que j'aimerais justement vous entretenir aujourd'hui, pour faire voir qu'il y a aussi une vérité dans le champ moral, mais que celle-ci est d'une teneur tout à fait particulière et qui exige passablement de nuances. Je commencerai par rappeler qu'un choix en morale tient compte de 4 facteurs. D'abord, il faut tenir compte de l'intention de celui qui pose cet acte. Deuxièmement, il convient de tenir compte des circonstances, des situations dans lesquelles cet acte est posé. Troisième facteur, il convient de prendre en compte les conséquences prévisibles des actes que l'on pose, individuellement ou collectivement. Et quatrièmement, il y a une objectivité de l'acte selon que l'objet de cet acte est bon ou au contraire mauvais. Or, il se passe, on va dire, depuis une grosse quarantaine d'années, un phénomène assez curieux et passablement inquiétant, c'est que ce facteur central tend à disparaître. C'était alors le pilier même autour duquel les 3 autres axes s'organisaient, qui a tendance à disparaître. Et puis, c'est comme une chaise qui aurait un pied qui lui manquerait, forcément les autres vont compenser le vide qui est laissé par cette absence. J'aimerais vous montrer aujourd'hui ce qui se passe lorsque un des facteurs disparaît dans cet ensemble et de voir comment successivement il va y avoir, et ce sera la première partie de mon exposé, la plus importante étant donné le thème de ce week-end, que se passe-t-il lorsque l'intention, le numéro 1, va occuper une place beaucoup trop grande que celle qui lui revient. Deuxièmement, je montrerai ce que ça donne sur le plan des circonstances, lorsqu'on assiste à une hypertrophie des circonstances. Troisièmement, que se passe-t-il lorsque on hypertrophie les conséquences? Sur ce troisième point qui est très important, j'irai très vite parce que ce n'est pas le thème de nos 2 journées. Et j'illustrerai chacune de ces déviances par une question polémique et une question fort débattue en Suisse, qui est celle du suicide médicalement assisté. En quatrième partie de mon exposé, j'indiquerai quelques voies de réponse avant de conclure brièvement. Prenons d'abord cette hypertrophie de l'intention et de la sincérité. Il y a tout d'abord quelque chose de très positif là-dedans, parce que lorsqu'on souligne le rôle...